Il y a plusieurs qui m'ont écrit me disant, voilà, on ne pourra pas être là dimanche. Je vois, c'est vrai, ils ne sont pas là, mais ils nous saluent bien. C'est Didier, Sandrine, leurs enfants. Et puis, oh là là, les noms. Enfin, que Dieu les bénisse là où ils sont. Amen. Que Dieu vous bénisse. On est content de ce qui se passe au château, les travaux. Je pense qu'on pourrait applaudir tous ceux qui ont travaillé cette semaine. Hein. Francis, Franck, Sandrine en particulier, sous la direction d'Éric Jacques, qui s'est beaucoup fatigué hein, à ce moment. Que Dieu le bénisse richement, que Dieu le bénisse richement. Je vous invite à lire Matthieu chapitre 13. Je vais faire la lecture dans la parole vivante d'Alfred Kuhn. Chapitre 13, versets 13 à 16. Jésus dit, on peut déjà lire un petit peu avant, au verset 10, alors ses disciples s'approchèrent de lui et demandèrent, pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler, pour parler aux gens? Il leur répondit, vous avez reçu le privilège de comprendre les vérités cachées du règne des cieux, tandis que cela n'a pas été donné aux autres. On donnera encore à celui qui garde ce qu'il a reçu jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance, mais à celui qui ne garde rien, on enlèvera même ce qu'il a. Et dans d'autres évangiles, c'est on enlèvera même ce qu'il croit avoir. C'est terrible. Voilà pourquoi je leur parle à l'aide de paraboles, parce que en ayant des yeux, ils ne voient pas, tout en ayant des oreilles, ils n'entendent ni ne comprennent rien. En eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre de toutes vos oreilles, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Alors la raison, c'est car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille. C'est eux, hein, ils font la sourde oreille. Dans d'autres versions, c'est marqué, leur esprit s'est appesanti, obscurci, encrassé, endurci, stupéfié. Ils ont fait la sourde oreille. Ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient. Ils ont peur de voir. Et que leurs oreilles n'entendent. De peur, encore là, la peur. Que leur cœur ne comprenne. Et qu'ils aient à se convertir en sorte que j'aurais pu les guérir, dit Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Jésus continue en disant, vous par contre, vous pouvez vous estimer heureux parce que vos yeux voient et vos oreilles entendent. Amen. Tout ce qui arrive aux enfants de Dieu ici-bas est soigneusement comptabilisé. Hier, le frère Manu me disait par Skype, il me disait, oh, c'est extraordinaire, Dieu s'occupe de tous les détails. Quand je pense, j'ai mis ma maison en vente et voilà que je suis tombé sur une chrétienne. C'est une chrétienne qui l'achète, c'est formidable. Alors, il était tout content à cause de ça. Vous voyez, quand c'est quelque chose de bien qui nous arrive, on voit Dieu dans tous les détails. Hein? Quand c'est quelque chose de pas agréable, là, on dit non, non. C'est des concours de circonstances, il n'y a pas de prédestination totale. Et le cœur de l'homme, mon Dieu. Hein, donc voilà, moi je crois qu'il faut le reconnaître dans toutes nos voies. Et Dieu tient soigneusement une comptabilité quand il dit qu'il met en face de nous, en face de nos adversaires, une table. Il met une table, ça ne veut pas dire qu'il met une table avec du Bircher Muesli dessus. Merci Alain Michaud pour ce bon Bircher Muesli d'hier soir. C'était délicieux, vous qui avez été joué au bowling, c'était bien fait pour vous, vous n'en avez pas eu. Il n'en reste plus, on a tout mangé. Non, quand il met une table en face de nos adversaires, ce n'est pas avec des frites, hein. Ça veut dire qu'il tient une comptabilité. Hein, c'est le mot, ça donnait comptabilité, une table. Il tient une comptabilité de nos actes, de nos comportements dignes, et tout cela nous amasse un trésor dans le ciel, n'est-ce pas vrai? C'est vrai. Et en ce moment, il faut dire quand même qu'on ne voit pas nettement, nettement où on en est. On est au milieu d'un champ de bataille sur cette terre. C'est une guerre. Bon, ici, ça va encore. Hein. En Europe, la guerre est plus spirituelle que physique. Il y a des pays où c'est même physique, où les chrétiens souffrent physiquement. Ici encore, ça n'est que spirituel pour beaucoup, mais nous sommes dans une bataille quand même. Et au milieu de cette bataille, nous sommes dans la fumée, alors évidemment, on ne voit pas très clair de ce qui se passe globalement. Mais nous ne nous rendons pas très bien compte, frères et sœurs, nous n'arrivons pas très bien à comptabiliser maintenant, là, tout de suite, pouvoir apprécier quels sont nos mérites, parce qu'on va recevoir des récompenses. Et alors, frères et sœurs, il faut persévérer à faire le bien. En communauté, dans l'Église restaurée selon la parole de Dieu, on apprend à suivre Jésus dans toutes ses voies. Pas seulement le reconnaître quand c'est positif, mais aussi quand c'est négatif, quand ça semble négatif, le reconnaître. Et nous apprenons à imiter ses œuvres puissantes, son comportement et toutes ces choses. Nous ne sommes pas restés assis. Nous avons entendu frapper à la porte. Nous nous sommes levés au beau milieu de l'église et devant tous, nous avons été à la porte de l'église où il y avait quelqu'un qui frappait de l'extérieur. Nous avons ouvert la porte, nous avons vu que c'était Jésus qui se tenait à la porte, nous lui avons fait signe d'entrée, il nous a tourné le dos, il est parti de là et nous l'avons suivi. Et tout le monde dit Alléluia, Amen. Nous avons laissé derrière nous la porte de l'église ouverte, on dira rien d'autre. Hein. Nous avons laissé derrière nous la porte de l'église ouverte afin que d'autres puissent nous suivre aussi. Maintenant, nous prenons nos repas en tête à tête avec Jésus, nous le suivons dans toutes ses voies. Vous connaissez la parole de Jésus dans Apocalypse chapitre 3, j'irai manger chez lui et lui avec moi, etc. Vous savez, ceux qui autrefois ont provoqué le martyr de Jésus, ceux qui l'ont crucifié autrefois, ceux-là, ils sont morts. En Suisse, on dit, ils ont le nez sec, ils sont morts. Mais les esprits qui les animaient, ils vivent dans de nouvelles personnes aujourd'hui, et ce sont ces personnes qui crucifient à nouveau, pour leur part, le Seigneur Jésus, dans ce 21e siècle. Ils le crucifient chaque fois qu'ils rejettent une de ses paroles, chaque fois qu'ils tiennent pour morte une de ses paroles. La tenant pour morte, ils la crucifient. Ils mutilent les saintes écritures, la saine doctrine, en enseignant des choses trafiquées, et ils crucifient Jésus ainsi, en crucifiant la parole. Jésus est la parole. D'autres martyrisent les enfants de Dieu. Des églises sont brûlées, il ne se passe pas un mois sans qu'on entende parler de cela. Des chrétiens sont assassinés, torturés, harcelés, menacés. Je me rappelle, il y a 10 ans encore, moi ça fait depuis 68 que je suis converti et j'allais écouter à la cathédrale de Lausanne le pasteur Richard Vrombrandt qui faisait des conférences pour dire comment ils étaient persécutés dans les pays communistes. Et on disait ça, moi j'en parlais à mes amis, j'en parlais à mon patron d'apprentissage, j'en parlais à tout le monde, et les gens disaient, mais c'est pas possible, on est quand même au 20e siècle aujourd'hui. Voyons, Michel, mais non, il a trouvé un truc pour se faire du pognon. T'as été voir, toi, s'ils sont persécutés On se moquait de nous quand on disait ça, puis on a continué, après il y a eu les pays totalitaire avec les musulmans fanatiques. Je ne dis pas que tous les musulmans sont fanatiques, mais ceux qui sont fanatiques. Et quand on parlait de cela aux soi-disant chrétiens de nos pays, ils se moquaient copieusement de nous en disant que on était, n'est-ce pas, on avait cette espèce de maladie de la persécution. Mais maintenant, tout le monde sait que c'est vrai. Pourquoi est-ce que tout le monde sait que c'est vrai? Parce que les médias en parlent. Ah, si c'est dit dans les journaux, alors là, maintenant, on y croit. On se moque plus de nous à ce sujet-là, on se moque pour d'autres choses. On se moque pour d'autres choses parce qu'on leur annonce aussi des choses qui vont arriver. Hein, comme par exemple, on leur annonçait la mondialisation, ça les faisait rire. Ils disaient, oh, mais ça me fait tellement rire. Et maintenant, ben, on est plein dedans, puis ils ne se rendent même pas compte. C'est la grenouille qui est en train de bouillir tranquillement et qui ne se rend pas compte. À quelle sauce elle va être bouffée. Ils se moquent de nous. Bon, là, au sujet des persécutés, ils se moquent plus de nous, mais en fait, bon, ils s'en soucient pas plus que ça. Hein. Frères et sœurs, vous qui souffrez pour le nom de Jésus, là, saisissez la portée pratique de votre carrière. C'est votre devoir, c'est votre privilège de suivre Jésus dans cette voie-là. C'est des choses qu'on prêche pas souvent. Et là, quand je me suis engagé à prêcher au sujet des mystères, de la science des mystères de Dieu dont il est parlé dans 1 Corinthiens 13, eh bien, je me suis dit, j'ai trouvé qu'il y avait là un mystère qui n'était vraiment pas approfondi, surtout dans l'Église évangélique. Nous devons suivre Jésus À l'exemple de Jésus, nous devons suivre cet exemple. Nous devons suivre l'exemple des vrais chrétiens de tous les temps. Je voudrais vous lire dans 2 Timothée 3:12, toujours dans la parole vivante. J'aime bien parce qu'elle choque, hein, cette version-là. Après, vous irez voir dans la vôtre si c'est vraiment vrai ce qui est écrit. Alors, c'est 2 Timothée 3:12. Voilà ce qu'il dit. C'est une règle générale. Deux points. Tous ceux qui sont décidés à mener une vie pieuse dans la communion avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Voilà. Tandis que les pécheurs et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, les imposteurs avec leur air de sainteté s'enhardiront, ils séduiront beaucoup de gens, mais leur succès causera leur ruine, car ils sont eux-mêmes victimes des erreurs dans lesquelles ils ont entraîné les autres. Pour toi, reste fidèle à tout ce que tu as appris, expérimenté, persévère dans les enseignements qui t'ont été confiés, que tu as accueillis avec foi et qui sont devenus des certitudes pour toi. Tu étais convaincu de leur vérité, non seulement parce que tu connais les maîtres qui te les ont enseignés, mais parce que depuis ton jeune âge, les Saintes Écritures te sont familières, elles te montrent le chemin, elles peuvent te donner la vraie sagesse, celle qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'était déjà à l'époque comme ça. Démontrer, mes frères et sœurs, la vérité, démontrer la vie, démontrer la sainteté en suivant Jésus, en vous comportant comme le Maître l'a ordonné. C'est pas une option, c'est pas un conseil comme ça. Non, c'est un ordre. Le commandement de Jésus est impératif. Il dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Allez par tout le monde, prêchez l'évangile à toute la création, guérissez les malades. Alors les tronqueurs de la parole de Dieu, ceux qui la crucifient, ceux qui la tiennent pour morte, ils assurent la majorité des béates personnes qui les écoutent que ces ordres de Jésus ne sont plus pour notre époque. En cela, ils crucifient la parole de Dieu. Leurs enseignements sont pernicieux et bientôt, mes frères et sœurs, ils vont comprendre. Pour le moment, ils ne veulent pas comprendre, mais ils vont être obligés de comprendre. Pour le moment, Dieu n'oblige personne. Il ne va jamais prouver à quelqu'un quoi que ce soit. Jamais. Parce que si Dieu se prouve à quelqu'un, ce quelqu'un-là n'aura plus besoin de la foi. Et si nous ne manifestons pas la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Parce que c'est un combat spirituel. Il y a des êtres maléfiques qui nous observent. Et si nous sommes convaincus par preuve que Dieu existe, eh bien, ces mauvais esprits vont dire, bon, c'est pas extraordinaire, tu t'es montré à eux, tu t'es révélé à eux d'une façon indéniable, ils croyaient en toi parce qu'ils t'ont vu, et bien voilà quoi, c'est tout, c'est pas extraordinaire. Nous sommes obligés d'avoir la foi, toujours la foi, il y a toujours la possibilité, qui dit la foi, qui dit le doute, parce qu'il peut pas y avoir le haut sans le bas, et il y a toujours cette dualité, celui qui dit j'ai la foi, en même temps, derrière il y a toujours une petite histoire de doute, et mon Dieu, oulala, je suis en train de marcher, mais c'est sur l'eau, il n'y a rien de sûr, c'est terrible, mais un jour ils comprendront parce que Dieu se révélera là. C'est écrit de l'Orient à l'Occident, le ciel s'ouvrira, tout œil le verra. Alors là, quand tout œil le verra, waouh, il se moque, c'est nous qui allons rire là. Je ne dis pas ça avec un esprit de mesquin, non. C'est simplement parce qu'on est entre nous, puis je dis voilà, qui rira bien, comment on dit ça rira bien, qui rira le dernier. Voilà. Ils seront réveillés subitement de leur léthargie, mes frères et sœurs, tous ceux qui tiennent sous leur coupe, avec leur doctrine imaginée, des gens qui sont léthargiques et leur doctrine morte, mes frères et sœurs, sans fruit, elles seront brisées par les exigences de la connaissance divine. Brisées, là, net. Là, ils n'auront plus besoin d'avoir la foi pour croire en lui, ils le verront. Waouh. Tous tomberont sur leurs genoux. Mais ça sera trop tard. On le leur dit aujourd'hui. Et quand ça arrivera, ils ne se moqueront plus de nous. Mais ça sera trop tard. Il arrivera un moment où ça sera trop tard. Pour le moment, c'est encore possible pour eux d'être sous la grâce, la miséricorde et la bonté de Dieu, mais à un moment, ça sera trop tard. Quand ils verront face à face le Créateur du ciel et de la terre, quand ils verront ce Dieu si grand, tellement grand, qu'il s'est même abaissé jusqu'à nous, pauvres rien du tout, pour venir nous sauver. Aujourd'hui, j'ai vu une photo, paraît-il, c'est une photo qui vient de Mars. Moi, je doute parce qu'il y a des nuages sur cette photo. Enfin bon, enfin, peut-être qu'il y a des nuages sur Mars et puis je ne sais pas, hein, je ne sais rien. Enfin bon. En tout cas, l'idée était jolie. C'est une belle photo d'un sol rouge et puis il y a trois points lumineux comme des étoiles dans le ciel. Et puis, il y a un frère qui écrit dessous, c'est la Terre, le troisième petit point à gauche, là, au fond du couloir. On est peu de choses. C'est vrai qu'on est peu de choses. C'est vrai qu'on est peu de choses. Eh bien, ce Dieu si grand qui a créé tout ça, il s'est abaissé jusqu'à nous sur ce petit bout de grain qui tourne là dans l'univers si immense pour s'occuper de nous parce qu'il nous aime. Pourquoi il nous aime? Ça ne s'explique pas. Ben, quand ils le verront, ils resteront bouche fermée. Tous leurs arguments, comme disait Chirac, shit. Tout ce que Jésus a dit à ses premiers disciples, il nous le dit également à nous. Croyez cela. Par exemple, un jour, Jésus a dit aux siens, donc à ses disciples, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, et ils imposeront les mains malades, les malades seront guéris. » Qui croit cela aujourd'hui? À qui est-ce qu'il s'adressait quand il disait ça? Il parlait à ses disciples, n'est-ce pas? Cependant, il n'a pas dit « Voici les miracles qui vous accompagneront ». Si je m'adresse à vous, je peux dire « Voici les miracles qui vous accompagneront », ça exclut tous les autres. Non, 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 non. Il a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Et on est dedans. Si nous croyons, on est dedans. Puis un jour, il a prié, non pas pour les 12 seulement, mais il a prié pour tous ceux qui croiront leurs paroles, c'est-à-dire les paroles de ces 12 qu'il avait là. Est-ce que vous croyez les paroles de ces 12? Oui, alors c'est que Jésus a prié pour vous et qu'il est exaucé. Jésus ne faisait que du bien partout où il allait. Et la Bible nous dit que, c'est lui-même qui dit, ils m'ont haï sans cause, sans raison. Et les vrais disciples, normalement, ils ne font pas de mal. Eh bien, c'est la même chose. On est haï sans cause, sans raison. Jésus souffrait, non pas à cause de ses péchés. Ses souffrances ont été simplement le fruit du péché des autres, le fruit de leur méchanceté, de leur bêtise, de leur intolérance et de leur mauvaise volonté. Et bien, c'est la même chose pour nous. On ne souffre pas que parce qu'on est châtié. L'autre jour, je vous prêchais au sujet de « on souffre parce que Dieu châtie ceux qu'il aime ». Mais ce n'est pas la seule raison. Aujourd'hui, je vous parle de ça et je vous parlerai d'une autre souffrance encore. Il y a d'autres, c'est pas infini, mais je veux dire, c'est immense le sujet de la souffrance. On peut pas dire, voilà, tu souffres parce que t'as péché, mais c'est d'une imbécilité. Il y a tellement de choses, mes frères et sœurs. En tout cas, l'esprit de Jésus, lui, ne souffrait pas. C'était son âme, son être humain qui souffrait. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, quand il souffrait, il allait se mettre en prière, il apaisait comme ça la tempête qui était à l'intérieur de lui en se mettant en communion avec son Père, esprit à esprit. En cela, il nous ouvre une porte, mes frères et sœurs. Il nous ouvre une porte, il nous montre un chemin. Comment imposer la paix à notre âme? Ce n'est pas par des raisonnements, ce n'est pas par des doctrines. Je ne sais plus avec qui je parlais hier, je crois que c'est avec Philippe ou avec Francis, je ne sais plus. Mais des paroles, comment Jésus parlait. Il n'expliquait jamais les choses avec toi, hein, Philippe. Il n'expliquait pas les choses. On lui posait une question, il avait une petite réponse. Puis il fallait aller réfléchir par rapport à ça. Mais il ne donnait pas des grandes explications, non? Eh bien, il faut trouver toute cette énergie, cette force, cette puissance dans notre communion avec Dieu. Pas dans les explications, pas forcément dans... Des arguments qui peuvent nous consoler un petit moment, nous faire du bien, nous chatouiller les ailes. Non, non, c'est dans la communion avec Dieu. Jésus nous a montré. En cela, nous avons maintenant une porte qu'il a ouverte, nous avons un chemin qu'il a ouvert. Comment est-ce qu'il a imposé le calme quand il était dans la souffrance? Qu'est-ce qu'il disait dans ses moments de prière? Mais il disait ce qu'il nous enseigne de faire aussi. Est-ce que vous imaginez que Jésus priait « Ô Père, tu connais mes souffrances. Regarde tous ces gens qui me font du mal. Sauve-les. Ouvre leur esprit pour qu'ils comprennent ce que je leur dis. » Non, priez pas comme ça. Croyez-vous que Jésus parlait comme ça, priait comme ça au sujet de ceux qui lui faisaient du mal? Non. Il disait simplement, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font. » Et pour le reste, vous savez ce qu'il disait? Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Amen. Vous pouvez comprendre ça? Vous pouvez comprendre ça? Ne dites pas à Dieu ce qu'il a à faire. Il y en a qu'il sauvera, il y en a qu'il ne sauvera jamais. Il y a des gens qui sont les siens et des gens qui ne sont pas les siens. Nous, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Le pourri, le cochon, le crétin, l'assassin, le méchant qui était crucifié en même temps que Jésus, ben c'est à la dernière seconde qu'il s'est converti. Vous voyez ce que je veux dire? On ne sait pas si quelqu'un est un enfant de Dieu ou pas. On ne sait pas. On n'a pas le droit de dire à Dieu de faire ceci ou de faire cela. Non, pardonne-le. Pardonne-le, Seigneur. Pardonne-la, elle m'a blessé. Pardonne-la, elle a blasphémé. Mais, pour le reste, que ta volonté soit faite. En tout cas, ne tiens pas compte de ça. Voilà. C'est ça, bénir. C'est ça, bénir ceux qui vous font du tort. Pour le reste, que ta volonté soit faite. Jésus, en priant ainsi, il a dévoilé l'idée spirituelle de l'amour divin. Parce qu'il savait que le sens matériel et que l'intelligence troublée de ses adversaires, ils excluaient la vérité. Et Dieu ne va pas arriver pour se prouver comme ça à des gens qui ne veulent pas de la vérité. Vous croyez qu'ils ne la cherchaient pas, la vérité? Ils étaient tous les jours dans le temple en train de lire, tous les jours en train de prier. Mais ça, c'est ce qu'on voyait. Mais la réalité, c'est que quand la vérité était devant eux, ils ne la reconnaissaient pas. Ils respectent trop l'homme, Dieu, pour le transformer d'un coup de baguette magique à son insu, en lui donnant des preuves. Sans la foi, sans la croyance, il est écrit qu'il est impossible de s'approcher de Dieu. Et ce n'est pas une barrière que Dieu a mis en disant, voilà, je décrète aujourd'hui que sans la foi, vous ne pouvez pas vous approcher de moi. Là, 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 l'air. Ce n'est pas mesquin chez lui. Pas du tout. C'est une barrière qui protège leur intégrité. Parce qu'ils sont intègres, c'est-à-dire entiers, ceux qui ne veulent pas de lui. Et Jésus respecte. C'est pourquoi, à nous les croyants, il dit, maintenant que tu es passé par-dessus cette barrière, que maintenant tu as la foi, puisses-tu être bouillant ou froid, mais voici parce que tu es tiède. Ah, attention, surtout ne sois pas tiède. Ce n'est pas une question de croyance, parce qu'on croit en nous. C'est une question d'actes qui sont en cohérence avec notre croyance. C'est ça qui est important dans notre vie. Nous, en tant que croyants, nous croyons que nous avons été ensevelis dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela signifie que nous ne croyons pas dans la puissance de l'erreur. L'erreur n'a pas de prise sur les morts que nous sommes. Nous sommes morts en Jésus-Christ. Sur les morts en Jésus-Christ, l'erreur n'a pas de prise. Ceux qui sont morts en Jésus-Christ et qui vivent et marchent selon l'Esprit, c'est-à-dire selon la parole. Avec amour, parce que vous pouvez marcher selon la parole sans amour, là c'est la mort. Alors nous avons des yeux qui voient, nous avons des oreilles qui entendent, alors nous comprenons. Vous voyez, il y a des choses à comprendre. Nous, on s'est converti, on a été guéri, c'est-à-dire délivré de la puissance de la cécité spirituelle, guéri de la puissance de la surdité spirituelle qui lie le monde. Et maintenant, nous comprenons. Nous comprenons quoi? Les choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre la science des mystères de Dieu selon 1 Corinthiens 13, 2. Ils ont besoin d'être brisés dans leur orgueil. Ils ont besoin de devenir comme des enfants. C'est eux qui doivent se faire comme des enfants. S'ils ne deviennent pas comme des enfants, l'accès à cette science leur est interdite. Il faut respecter les jeux de celui qui nous a créés. Ce n'est pas à nous de les imposer. Nous ne pouvons pas dire à Dieu, mais maintenant, je veux jouer au foot avec d'autres règles. Pourquoi est-ce que cet accès est interdit à certains? Parce qu'ils feraient du mal avec cette connaissance. Regardez déjà, avec le peu qu'ils ont, avec les Écritures saintes, ils ont déjà réussi à justifier leurs crimes, l'Inquisition, la Shoah, la Saint-Barthélemy, toutes ces horreurs, les croisades, ils ont réussi à justifier tout ça. Ils tordent tout. Ils se servent, par exemple, de la loi de la foi. Semer et récolter, c'est une loi de la foi. Le paysan, il a la foi. À chaque fois qu'il sème son blé, il a la foi. Allez voir les Burkinabés s'ils n'ont pas la foi quand ils sèment leur mil. Hein. Vraiment la foi, hein, là-bas. Eh bien, ils se servent de cette loi pour se faire du pognon sur le dos des pauvres. Pas les paysans. Hein. Je dis les méchants qui connaissent, qui prennent la parole de Dieu avec les principes de la foi. Eh bien, ils s'en servent pour monter des églises, de la superabondance matérielle. Mon Dieu. Alors, je dis merci Seigneur que ces choses sont restées cachées aux sages et aux intelligents de ce monde. Et merci, mon Dieu, que ces choses sont révélées à ceux qui ont un cœur humble, à ceux qui se sont humiliés volontairement devant la grandeur de Dieu. Matthieu 11, 25, c'est pas moi qui le dis, mais je le pense vraiment. Merci, Seigneur. Mon nom serait où s'il connaissait tous les mystères, les secrets de la foi, de la science de Dieu? Mais ça serait terrible. Heureusement que les démons ne connaissent pas tout. Et heureusement que les vaches n'ont pas des ailes. Et heureusement... Et vous voyez, il y a des tas de choses comme ça. Il faut réfléchir un petit peu. C'est d'une logique imparable. Regardez Jésus, qui a essuyé humblement toutes les moqueries suscitées par sa grandeur méconnue. Il ne se rendait même pas compte qu'ils avaient en face d'eux. Des fois, si je vous dis, attends, ils avaient Jésus en face d'eux, Jésus est en train de parler, puis d'un coup, une grosse nouille qui pose une question. Vous avez remarqué ça dans la Bible? Il est sans arrêt interrompu par des ânes gris, comme on dit en Suisse. C'est terrible! Il ne se rendait même pas compte. Et jusqu'à la fin, ce sera la même chose. Les vrais disciples de Jésus auront à souffrir, à endurer des affronts pareils à ceux que Jésus, notre maître, a endurés. Mes frères et sœurs, Jésus, réjouissez-vous, il a vaincu le monde. Dans ma première Bible, celle que je n'apporte plus ici, parce qu'elle est vraiment maintenant, si on souffle dessus, elle tombe par terre, ma vieille Bible, c'est ma mère qui m'avait offert ma première Bible de prédicateur. Vous savez, la bonne grosse Bible avec les annotations et tout. C'était le 5 février 1970. Elle m'avait donné Jean 16, 33. Elle avait écrit, « Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais prenez courage. Moi, j'ai remporté la victoire sur le monde. » Et c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on est plus que vainqueurs. Parce que la victoire, ce n'est pas nous qui l'avons remportée, c'est lui. Et nous, on est les exécutifs, si vous voulez, de cette victoire. On prend possession du terrain grâce à sa victoire. C'est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Sinon, plus que vainqueurs, c'est comme plus blanc que blanc, quoi. Je veux dire, ça n'existe pas. On est vainqueur ou on est perdant. Mais quand on est plus que vainqueur, ça veut dire qu'on profite des bienfaits de la victoire qui a été acquise par quelqu'un d'autre. On peut marcher dedans, on peut vivre dedans. Et puis voilà. Amen. On ne souffre pas, vous voyez, simplement, seulement parce qu'on est châtié. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas s'ils sont éprouvés ou s'ils sont châtiés ou ils ne connaissent pas, ils sont dans le trouble. On est aussi dans la douleur sans raison. Parce que c'est sans raison qu'ils ont détesté Jésus et c'est aussi sans raison qu'ils haïssent les chrétiens. Pas seulement les gens, mais les mauvais esprits. Les mauvais esprits, sans raison. Dans le sens de sans conformité avec la justice, sans conformité avec l'équité. C'est ça, parce que vous avez le mot raison, ça signifie beaucoup de choses, mais c'est dans ce sens-là que cela est cité. Et Paul, il parlait du pourquoi de la souffrance. Il avait été emprisonné Et il parlait du pourquoi, c'est parce qu'il annonçait Jésus, alors il était emprisonné. Mais aujourd'hui, on vous dira, oui, mais ce que l'apôtre Paul dit pas, c'est que tous ces gens qui se convertissaient, ils donnaient beaucoup d'argent, puis c'était quand même un commerce terrible, cette histoire, avec tous ces milliers de personnes qui donnaient tout leur bien à ce bonhomme-là, à l'apôtre Pierre. Par exemple, vous avez quoi cet argent? Est-ce qu'il déclare aux impôts? Il faut faire des enquêtes pour savoir. Hein? Vous voyez, on dit, c'est pas à cause de Jésus, hein, c'est à cause de l'argent qu'ils étaient persécutés. Paul, il enjolive ça en disant que c'est parce qu'il prêchait Jésus. Regardez ce qui s'était passé dans la ville où il avait fait ce miracle extraordinaire. Les gens ont dit, ah ouais, mais alors, la pythonisse, là, maintenant, elle est délivrée, et puis nous, on fait comment pour gagner le pognon qu'on gagnait avec elle? Vous voyez, c'est toujours, c'est le pognon. C'est Jésus ou l'argent. Toujours. Et Paul, lui, savait très bien pourquoi. C'est une question d'esprit. Question d'esprit. J'étais emprisonné parce que j'annonçais Jésus. Dans 1 Timothée 1.12, il continue. Dans 2 Timothée 1.12, il continue en disant, c'est aussi la raison de mes souffrances présentes, de cette nouvelle épreuve qui est mon emprisonnement. Mais je n'en ai point honte, je ne regrette rien, car je sais en qui j'ai cru et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour préserver jusqu'au grand jour tout ce qu'il m'a confié et pour me garder fidèle dans la mission dont il m'a chargé. Il ne dit pas, il est tout puissant pour me préserver, mais pour préserver ce qu'il m'a confié. Vous voyez? Pierre aussi, il exhortait les premiers chrétiens lorsqu'il disait, on va lire dans 1 Pierre 2, 19, 20, il disait en effet, c'est une grâce, c'est une chose agréable à Dieu si quelqu'un accepte d'endurer de mauvais traitements tout en sachant qu'il souffre injustement parce que sa conscience le lui commande et qu'il le fait pour l'amour de Dieu. Car après tout, vous n'aurez pas de quoi vous vanter si vous recevez des gifles pour avoir commis une faute. Mais si vous avez à souffrir après avoir bien agi et que vous l'endurez patiemment, c'est une grâce de Dieu, c'est une grâce que Dieu vous fait et vous lui êtes agréable. Eh oui, mes frères et sœurs. Vous voyez, on ne souffre pas seulement parce qu'on fait des bêtises, parce qu'on prend une gifle, ça c'est normal, mais pour d'autres raisons aussi. Vous qui souffrez, écoutez bien cela. La question c'est, est-ce que c'était juste que Jésus souffre? La réponse c'est non. Et pourtant, c'était inévitable dans le plan de Dieu. Certains vont dire, mais Dieu, votre Dieu, c'est un monstre. Nous a tant aimé qu'il s'est fait un corps, il est venu lui-même pour offrir ce corps afin que nous n'ayons pas à mourir. C'est pas un monstre. Ah oui, ça serait un monstre s'il y avait une trinité et que Dieu le Père, fâché dans son coin du ciel, disait « Bon, ben je les aime tellement, ces minuscules terriens là-bas, que je vais envoyer mon fils pour aller mourir à leur place. » Non, non, il est venu lui-même. Jésus-Christ était Dieu fait chair, c'était Emmanuel, c'était Dieu avec nous. Il est venu lui-même pour mourir sur la croix. C'est un acte d'amour, ce n'est pas un monstre, c'est un acte d'amour. C'était inévitable, il l'a fait par amour. Parce qu'autrement, il n'aurait pas pu nous montrer le chemin et le pouvoir de la vérité. Alors, si une vie aussi noble, aussi bienfaisante, aussi belle que celle de Jésus ne lui a pas épargné le sort d'un criminel, parce que c'est comme ça qu'il a fini. Pour nous qui ne sommes que ces pauvres petits envoyés, bien limités, nous devons pouvoir endurer la brutalité des hommes, des femmes et des démons, sans murmurer. Réjouissons-nous d'être unis à lui, par l'arc triomphal de la vérité et de l'amour. L'arc de triomphe. La vérité et l'amour. La vérité sans l'amour, c'est une secte. Jésus exige de nous, il exige de nous, que nous suivions l'exemple de Jésus, notre maître, et aussi des apôtres. Et il ne veut pas que nous nous bornions à adorer sa personnalité. Le culte, c'est pas ça, ce qu'on est en train de vivre là. Le culte agréable à Dieu, ce n'est pas notre réunion du dimanche matin. Le culte, ce sont nos œuvres et nos comportements au quotidien. Amen. Jésus, aide-nous. Aide-moi dans mes souffrances, dans mes difficultés. Aide mes frères et sœurs à comprendre où est la part des choses, si c'est parce qu'ils ont péché ou si c'est parce que cela t'est agréable d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou pour une autre, même qui nous dépasse. Aide chacun à être bien au clair afin de pouvoir relever la tête et marcher, aller de l'avant. Ne pas rester statique, ne pas rester passif, ne pas rester s'endormir dans une tristesse, une léthargie. Mon Dieu, permet à chacun, au milieu de sa souffrance, de réagir comme toi tu nous as montré, en allant se mettre en communion avec toi. Père, tu es notre souverain bien. Merci Jésus. Merci pour la communion fraternelle qui peut parfois et très souvent nous aider. Mais Seigneur, c'est la communion avec toi qui est réparatrice de toutes les brèches. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Et continue à m'inspirer des messages afin de pouvoir aider mes frères et sœurs dans ce domaine. Parce que je sais que des heures terribles viennent pour la France. Merci Jésus. Amen.